Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à un autre épisode d'Aux Premières Loges. C'est encore une fois les séries de la Ligue nationale de hockey 2024 qui se poursuivent, et on est là donc pour les analyser. Olivier Prince-Groslot à animation en compagnie de Thomas Lafond. Comment ça va, Tom?
Ça va très bien, encore un peu crippé, mais rien qui m'empêche d'être ici ce soir.
C'est bon, hein? Puis exactement, puis une fin de session et tout, on comprend là. On comprend ces petits ennuis de santé. Merci d'être là malgré tout. Donc, Tom, gros hockey, c'est ta première présence aux Premières Loges pour cette édition-ci, si je ne me trompe pas.
Oui. Ben, j'ai fait le preview de l'Est.
C'est vrai.
Avec Dou, Vince et toi. Mais en tant qu'analyste de la journée, c'est ma première fois.
Eh bien, c'est quand même une bonne journée pour ta première, parce que commençons avec du côté de l'Ouest, avec l'Avalanche contre les Jets. Une victoire écrasante quand même de l'Avalanche 5-1. Et on a l'impression que presque rien ne va plus là, pour les Jets là, après avoir mené lors du dernier match et s'être fait remonter là, de façon importante. Et dans cette rencontre-là, ils n'ont pas du tout été dans le coup. Arturi Lehkonen, déjà un quatrième but pour lui dans cette série qui m'a marqué le premier de la rencontre. Casey Mittelstadt a joué un très bon match, encore une fois, récolte une passe. Nate Schmidt va marquer le seul but pour les Jets. Ensuite, c'est Nichushkin en avantage numérique. Kel Makar, tout un but d'un bout à l'autre. Nichushkin, encore une fois, en avantage numérique. Et pour finir, Nichushkin en filet désert pour marquer son tour du chapeau, voilà. Et ça va se finir 5-1 pour l'Avalanche. Qu'est-ce que tu penses là, de cette domination de l'Avalanche et de cet écroulement des Jets? Là?
Ben, écoute, du côté de l'Avalanche, je pense qu'on s'est vraiment réveillé au bon moment. Je suis content du coup d'avance, j'en ai fini la saison un peu. Ça n'a pas été facile. Par contre, de la façon qu'ils jouent, je pense que c'est l'équipe d'il y a 2 ans qui s'était rendue jusqu'au bout. Et du côté des Jets, ben écoute, le seul gros avantage qu'ils avaient sur l'avalanche, c'était devant le filet avec Connor et LeBoc. Et LeBoc qui connaît des séries vraiment difficiles depuis le début. Depuis le début de la série, même la première rencontre, la rencontre que les Jets ont remporté, a quand même accordé 6 buts. Donc, normalement, quand ton gardien accorde autant de buts, c'est difficile de gagner, surtout en série. Donc, sur du côté des Jets, comme tu l'as dit, rien ne va plus. Et je vois mal comment est-ce qu'ils pourraient renverser la vapeur, surtout avec l'avalanche qui roule à plein régime présentement. Écoute, pour moi, ça ne se termine pas le prochain match, ça se termine en 6.
Ouais, je suis assez d'accord. Je vois pas comment, comme tu l'as dit, je vois pas comment les Jets peuvent renverser ça. On parlait, tu sais, les Jets ont gagné 7-0 là, quelques jours avant le début des séries. 7-0 contre l'Avalanche en saison régulière. Puis on disait, là, les séries, c'est vraiment une toute autre saison. Puis on a là la preuve parce que vraiment cette dynamique-là, c'est où est-ce qu'on avait vraiment lavé l'Avalanche, ben, elle n'est plus présente. On a manqué de constance quand même assez souvent durant l'année. Ça a été des passes plus difficiles côté des Jets. Puis voilà, peut-être, pardon, excusez-moi, avec cette inexpérience des séries, puis le fait qu'on n'est peut-être pas capable d'être tout le temps à notre meilleur dans les grands matchs, bien, ça peut donner des résultats comme ça, une équipe qui est quand même chambalante en série. Puis tu as parlé de Connor et LeBoc. Effectivement, là, bon, hier, je pense pas qu'il y a grand but que c'est de sa faute là, qu'il doit
prendre du doigt. Sa faute, mais en même temps, je veux dire, un gardien de sa trempe, hein, puisque c'est finesse au Vezina, t'es en droit de t'attendre à mieux, là, quand même.
Ouais, puis c'est énormément de buts accordés depuis le début de la série. Là. C'est 6 dans le premier match, 5 dans celui-ci. Le dernier match, je pense que c'était 5 buts aussi. En tout cas, il n'y a pas eu un match où est-ce qu'il a donné peu de buts. Là. Ça a tout été des grosses performances offensives de l'Avalanche, puis ça a été difficile à chaque soir pour LeBoc. Donc, tu l'as très bien dit, là, c'est probable. Ben, en fait, je pense que c'est. Qui sera le gagnant du Vezina, mais en série, a de la misère à performer. Puis du côté de l'Avalanche, je te parlais là, que tu pensais que c'était gagné cette série-là pour eux. Est-ce que tu les vois vraiment comme des sérieux prétendants à la Coupe Stanley?
Ouais, ben honnêtement, j'ai au début des séries, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient une très longue run, mais plus que je les vois jouer, plus que je suis impressionné, honnêtement, je les vois. Dépendamment qui est-ce qui remporte la série entre Dallas et Vegas, il pourrait facilement se rendre en finale de l'Ouest.
Ouais, ben tout à fait. Là. Moi, je pense que Colorado, tu l'as dit, là, ressemble beaucoup à son style de jeu, à l'énergie qu'ils avaient lorsqu'ils ont rapporté la Coupe en 2022. Les additions qu'ils ont faites à la date limite, Walker, Metostal, entre autres, vont bien. Des gars comme Duhem et Trenin sur un quatrième trio aussi, c'est des gars de série, c'est des gars de physicalité. Donc, je pense qu'ils sont bien bâtis là, pour les séries. Ils ont une bonne défense également. Et Gorgiev, donc, qui était un extrêmement gros doute, qui a vraiment pas bien joué lors du match numéro 1, ben, depuis ce temps-là, on n'en parle plus parce que là, c'est une moyenne de 963 là, dans ce match-ci. Et ouais, donc, il s'est vraiment repris, là, Gorgiev, de ce côté-là. Plus personne ne parle de lui parce que les doutes, pour le moment, semblent effacés. Donc, très bonne nouvelle pour l'Avalanche de ce côté-là. Passons donc maintenant à une autre série dans l'Ouest qui jouait hier après-midi également. Tout un match. Honnêtement, la série Canucks Preds n'était pas si enlevante jusqu'à maintenant. Là, on a eu tout un match avec toute une remontée, un autre tour du chapeau. Et d'ailleurs, parlant de joueurs qui a marqué un tour de chapeau, c'est Brock Besser qui va ouvrir la marque pour les Canucks. C'est alors son deuxième des séries. Ensuite, c'est les Preds qui vont prendre contrôle de cette rencontre. Jankowski et Nyquist vont marquer, suivi de Philip Forsberg également. Un but un peu bizarre là avec son patin. Je ne sais pas si tu as vu ce but-là.
Oui, oui, ben c'est la rondelle qui a dévié sur son patin. Il n'y a rien que Silov aurait pu faire là-dessus. Là,
c'est ça. Oui, si tu fais bien de mentionner Silov aussi, là, qu'on va y revenir. Mais voilà, pour revenir à Forsberg, personnellement, j'ai de la difficulté avec ce genre de but-là parce que, oui, en effet, il n'y a pas de motion, de kick, de coup de pied, mais ça reste qu'il oriente son patin pour que la rondelle touche son patin et aille vers le filet. Donc, c'est comme, je comprends le règlement que c'est vraiment là, on a délimité que c'était seulement s'il y avait une motion évidente du pied, mais ça reste un but volontairement avec le patin, même si tu ne fais pas de motion, tu sais. Donc,
j'ai
misère avec ce règlement-là.
Ça reste dans les règles de l'art, c'est. C'est un but intelligent, tu sais.
Ouais, ben c'est un but. C'est selon les règles, c'est un but qui est bon, qui est valide. Mm-hmm. C'est juste la règle que j'aime pas tant que ça. Parce que tant qu'à moi.
Je comprends.
À moins que ça accroche ton patin, je vois pas pourquoi ça serait un but. Tu sais, quand tu fais exprès d'orienter ton pied, pour moi, c'est la même pensée que faire une motion, c'est dans le but que ça rentre dans le but. Fait que,
ben écoute, je comprends ton point de vue là-dessus.
Ben merci de me comprendre. J'aime beaucoup ton empathie, Tom. Donc, on va poursuivre donc le résumé. Donc, après le but de Forsberg, c'était 3-1 pour Nashville. Et là, cataclysme là, du côté de Nashville. À moins de 3 minutes, là, Brock Besser va marquer 2 buts pour faire 3-2 et 3-3. Il va égaliser. Il restait 8 secondes à la rencontre. Donc, et c'est dans une séquence folle où est-ce que la rondelle est comme échappée à Saros. Besser qui a tenté de la mettre, là, a raté, a repris la rondelle, l'a ramené dans le but. Donc, vraiment, toute une séquence pour les Canucks qui démontre vraiment du caractère. Ça manquait de ça, je trouve, du côté des Canucks dans leur dernière saison, même dans leur dernière série éliminatoire. Puis là, on a vu ça et ça montre que la marge de progression qu'ils ont fait. Et c'est finalement Elias Lindholm qui va marquer le but gagnant en prolongation. Une couverture défensive là, vraiment mauvaise là-dessus des Preds. Lindholm qui était tout seul devant le filet. Et donc, les Canucks prennent l'avance 3-1 dans cette série. Une autre série qui ne se termine pas 2-2. Il y a ce soir le Stars Golden Knights que ça pourrait être 2-2. Sinon, on n'aura aucune série 2-2. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et de Silov également qui a fait un grand match là, pour un gardien qui devait avoir énormément de pression après les matchs après les blessures de Demko et de Casey DeSmith.
Ben écoute, premièrement, je vais m'enseigner quelque chose que tu as oublié de parler.
Oui.
Dans ton recap, Colton Sissons qui
touche le poteau, c'est vrai.
Le poteau sur un pied de terre qui aurait pu mettre le match hors de portée des Canucks. Écoute, je sais pas pourquoi.
Poteau qui va hanter les Prédateurs.
Quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser aux Américaines, aux Jeux Olympiques de Sochi, si je ne me trompe pas, ouais. Contre le Canada en finale. Le tir qui rate un poteau, le Canada qui égalise, puis qui remporte la médaille d'or en prolongation.
Ça ouais, c'est à Sochi, ça?
Quoi? Ouais,
c'est à Sochi, ça?
Ouais, je pense que c'est à Sochi. Ou Vancouver.
C'est à Pyeongchang.
Non, à Pyeongchang, c'est les Américains qui avaient gagné.
OK, bon, mais Sochi d'abord.
Ouais.
T'as une meilleure mémoire que ça que moi pour ça, fait que je te fais confiance.
C'est bon. Ben ouais, écoute, c'est vraiment un jeu qui va hanter Sisson, tu sais. Et les Prédateurs, mais écoute, le hockey, c'est un, C'est un jeu de pouce qu'ils disent. Hein, donc, ça fait partie du jeu, mais pour revenir à Seedorf, vraiment, chapeau à lui. Il est arrivé un peu en catastrophe avec les Canucks. Les deux gardiens sont blessés en série. C'est loin d'être idéal. Il est quand même 27 arrêts sur 30 tirs. Pour Seedorf, qui est aussi un ancien des Lions de Trois-Rivières, qu'il faut
c'est vrai. Rappeler. C'est
et vrai. Ça a vraiment connu une bonne performance, a bien géré ses lancers, accordé peu de retours. Et vraiment, oui, les Prédateurs ont marqué 3 buts, mais il n'y a pas grand-chose que Seedorf pouvait faire sur ces buts-là. Si on en parlait avec Forsberg, vraiment chapeau à lui. Puis peut-être que, écoute, on ne sait jamais. Mais ça, on pourrait avoir droit à une autre run à la Michael Layton ou un gardien qui sort de nulle part, qui devient soudainement Patrick Roy. Donc,
Yaroslav Halak, même si c'est pas à la même échelle.
Ouais, effectivement. Ouais. Donc, on aurait peut-être droit à ça à Vancouver.
À suivre. Mais une chose est sûre, Vancouver me surprend personnellement parce que là, c'est 21 tirs au but puis on a été capable de marquer 4 buts. Mm-hmm. Dans le dernier match, c'est 12 tirs. Donc, vraiment, on ne tire pas beaucoup au but, mais on réussit à être opportunisme. Là. C'est franchement impressionnant. Ouais. Le nombre de buts qu'on réussit à marquer puis le nombre de victoires qu'on réussit à aller chercher avec autant peu en générant autant peu d'attaques. Puis les gros canons des Canucks qui répondent présents, Besser, Miller, à part peut-être Pettersson qu'on ne voit pas assez, je trouve, dans cette série-là. Mais tu allais dire quelque chose?
Ouais, ben ça, c'est à l'image un peu des Canucks. Je ne me trompe pas, c'est l'équipe qui a le meilleur pourcentage de réussite sur ses tirs dans la NH cette saison. Donc, écoute, c'est une équipe opportuniste. Puis, comme tu as dit, en même temps, ça Rose est peut-être pas dans sa forme habituelle. Donc, c'est sûr que ça l'aide de ce côté-là également. Là.
Ouais, puis je parlais, Saros, t'as bien fait. C'est vrai qu'il n'est pas dans comme un débat. N'est pas à son meilleur présentement de côté des Preds. Puis je parlais de Pettersson avant que t'en parles. Lui, c'est ça. C'est les Canucks vont bien et Pettersson est loin d'être à son meilleur. Donc, si Pettersson commence à se mettre en marche, je pense qu'il n'y a pas encore de but dans cette série. Puis il y a 2 passes. Donc, si Pettersson commence à se mettre en marche, les Canucks pourraient devenir vraiment plus dangereux. Pour ce qui est des Prédateurs, je suis un peu déçu quand même parce que là, je pense que ce qui leur donnait l'avantage dans cette série-là, c'est leur expérience. Puis on a très mal géré cette fin de match avec une avance de 3-1. Tu l'as dit, c'est vrai que le poteau de Colton Sissons a tout changé. C'était 2-2 si ça rentrait, ce but-là. Mais voilà, c'est quand même une mauvaise gestion des Preds qui fait en sorte que probablement que ce poteau-là leur coûte la série, leur coûte leur dernière chance de série. Je pense que tu allais dire quelque chose.
Non.
OK, parfait. Bon, mais voilà. Est-ce que, même question, en fait, que pour l'Avalanche. À quel point est-ce que tu penses que les Canucks sont des sérieux prétendants pour la Coupe?
Encore une fois, écoute, dans l'Ouest, je pense que ça va être super serré. Peu importe qui est-ce qui va sortir de ces séries-là, que ce soit de ces 4 séries-là, ça va donner d'excellents match-up en deuxième ronde. Puis je pense que les Warriors vont l'emporter un peu spoiler pour la suite des tonnes, mais les Warriors vont éliminer les Kings et les Canucks devraient le faire aussi contre les Prédateurs. Écoute, cette série-là va être tellement dure à prédire que, écoute, je pourrais pas dire, mais honnêtement, se rendre en deuxième ronde pour les Canucks, quand on pense aux attentes de début de saison, c'est déjà un très bon accomplissement pour Vancouver.
Tout à fait. Personnellement, je les trouve moins dangereux que l'Avalanche, là, pour les raisons que j'ai mentionnées. Faut générer plus d'offensives que ça en séries éliminatoires. On est chanceux que les Preds ne soient pas une équipe qui soit capable de faire payer, honnêtement, parce qu'avec 12 tirs, 21 tirs, puis même dans les premiers matchs, on n'a pas géré tant d'attaques que ça, si je me rappelle bien. Ça fait qu'il y a d'autres équipes comme les Oilers, probablement, ou l'Avalanche même, qui vont te faire payer plus que ça. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir augmenter leur niveau de jeu du côté offensif du côté des Canucks. Si on veut battre les Oilers, parce qu'on sait contre les Oilers, la meilleure défense, c'est pas mal l'attaque. Là. On le voit du côté des Kings. Seule fois qu'ils ont été capables de rivaliser contre les Oilers, c'est en marquant beaucoup de buts. Donc, je pense que ça va être cette recette-là. Si, si c'est bien Oilers et Canucks qui se retrouvent en deuxième ronde. Ça va être à suivre de ce côté-là. Maintenant, dans l'Est, mon Tom, on a une élimination, la première élimination de ces séries éliminatoires. Les Rangers de New York qui éliminent les Capitals de Washington, ils font plus que les éliminer. Ils les balaient en quatre matchs. Le match final qui se termine par la marque de 4-2. Capo Caco qui a ouvert la marque avec 57 secondes sur un bête revirement de Nick Jansen. Et honnêtement, quand tu pars ça comme ça, un match où est-ce que tu fais face à l'élimination, ça te fait dire que c'est terminé là, pas mal pour tes partisans, pour ceux qui regardent la game. Ça part tellement mal. Oui, c'est pas nécessairement c'est une erreur de concentration tout simplement, mais ça donne juste un mauvais présage puis un très mauvais feeling. Mais quand même, Martin Ferrer-Vari qui a égalisé pour les Caps. Trocheck qui joue une grosse série a redonné les devants aux Rangers avec un but en avantage numérique. Tout un but ensuite du Québécois Hendrix Lapierre, son premier en carrière en séries éliminatoires. Voilà, qui va faire 2-2, très beau but. Mais finalement, Artemi Panarin va inscrire le but gagnant en avantage numérique. Jack Roslovic également va conclure le tout dans un filet désert, alors qu'on voit Ovechkin là, à la toute fin, là, des images qui sont quand même tristes parce qu'on sait là, que c'est les derniers, probablement le dernier match d'Ovechkin en série éliminatoire, donc essayer de bloquer le tir de Roslovic sans succès. Et lui, Ovechkin qui a été complètement invisible là, dans cette série, aucun point, n'a généré à peu près aucune chance de marquer. Là, donc,
aucun tir hier.
Ouais, aucun tir hier, puis c'est pas au maximum, il y a 3-4 tirs dans la série, là, donc c'est vraiment très peu dangereux, Ovechkin. Puis malgré les avantages numériques que les Capitals ont eu durant la série, jamais on a été capable de mettre en place efficacement Ovechkin. Donc, ouais, c'est ça. Ton bilan là, de la saison des Capitals, de cette série-là aussi pour eux, et de la victoire des Rangers.
Ben, écoute, on en parlait avant l'épisode. Je suis très content que cette série-là soit terminée parce que c'était pas la série la plus palpitante. Puis, on s'attendait tous à une domination des Rangers, puis c'est un peu ça qui est arrivé. J'avais vu une stat pendant le broadcast hier. Les Capitals ont mené dans la série pendant seulement 3 minutes et 27 secondes, je ne me trompe pas. Vraiment une domination complète des Rangers du début à la fin. Et hier encore, tu l'as dit, Ovechkin qui était complètement absent. En fait, le plan de match défensif du côté des Rangers pendant toute la série, ça a été de neutraliser Ovechkin, qu'il soit en powerplay ou à 5 contre 5. Dès qu'il y avait la rondelle, il y avait un défenseur qui venait d'étouffer. Hier, plusieurs tirs qui ont été bloqués par les Rangers, tirs d'Ovechkin. Donc, écoute, je pense que ça a été fait de manière d'une excellente manière. Et autre Ovechkin, tu regardes les Capitals, il n'y a pas vraiment d'autres offensives qui vient du reste de l'attaque. Donc, je pense que quand tu coupes Ovechkin, tu coupes pas mal les Capitals. Puis on en parlait dans l'épisode de preview. Les Capitals ne méritaient pas vraiment d'être en série et
non, c'est ça.
Ça a paru. Là, c'est pas une équipe qui était bâtie pour ça. Et ça, les Rangers en ont profité, ont complètement dominé et la logique a été respectée. Là.
Ouais, on en a parlé et je suis bien d'accord. Je pense que les Red Wings ou même les Penguins, pour faire plaisir à Doux, aurait pas gagné cette série, je pense pas, mais aurait donné plus de fil à retordre aux Rangers, je pense. Là.
Ouais.
Ça m'étonnerait pas que si c'était les Red Wings, par exemple, là, on ait besoin d'un cinquième, peut-être même d'un sixième match. Là, donc,
Ben, tu sais, pour des Caps, je m'attendais à ce qu'ils soient capables de gagner un match. Là,
ouais, moi aussi.
Ovechkin qui décide d'en gagner un à lui seul, mais bon. Mm-hmm.
C'est
plate, c'est un peu la fin d'une époque. Tu dis pas se faire son dernier match en série. Mm-hmm. Puis, tu sais, la question se pose, c'est quoi la suite pour les Caps? Parce que tu regardes Ovechkin, il reste quoi, un an ou deux à peu près?
Il reste 2 ans son contrat, je pense.
Ouais, puis on s'entend que si il bat record l'année prochaine, ça m'étonnerait qu'il termine son contrat. Il reste quoi? 30 buts, 40 buts à aller chercher de Gretzky?
Ouais, je pense qu'il reste. une quarantaine, je pense. Donc, ouais, ça serait quand même impressionnant qu'il le fasse dès l'an prochain. En tout cas, là, je pense que j'avais calculé que ça y prenait 22 buts dans les deux prochaines saisons en moyenne. Donc, okay, ouais. S'il le fait en une saison, c'est à peu près une quarantaine de buts. Là.
OK, ouais. Ça,
à peu près. Ça peut se faire parce que c'est Ovi, mais ça serait surprenant quand même.
Mais c'est ça. Est-ce que tu commences ta reconstruction dès cet été ou tu attends le départ de Ovi? Personnellement, je pense que les Caps sont un peu pris dans la même situation que les Pens. C'est-à-dire que tant que ton joueur de franchise qui t'avait chicken, tu es obligé d'être un minimum compétitif. D'avoir un line-up un minimum compétitif puisqu'il est dans l'équipe. Et je m'attends pas à ce que Carlson parte ou les autres. Mais je pense que les jeunes comme Hendrik Zapier ou le Russe Ivan Miroshenko risquent d'avoir plus d'opportunités l'an prochain.
Ouais, je pense que c'est Miroshnichenko, quelque chose
comme ça. Ouais, Miroshnichenko, oui.
Voilà, c'est compliqué à dire, on te parle. Ouais. Mais ouais, non, je suis très d'accord avec toi. Je pense que pour les Caps, il faut commencer la reconstruction là, même si oui, je comprends que tu veux aider Ovechkin à battre son record. Il faut quand même là, que tu sais, entoure-le de jeunes qui vont le faire produire pareil, là, mais il ne faut pas que ça t'enlève une année de reconstruction parce que Ovechkin doit absolument battre son record. Il faut quand même que tu penses à ton équipe là-dedans et que tu ne sacrifies pas une voire deux années pour ça. Mais ouais, ça va être bien intéressant de voir le futur des Capitals, comment on va arranger tout ça. Puis oui, je pense que c'est des adieux qu'on fait à Ovechkin, parce que si les Capitals refont les séries l'an prochain, je comprends pas grand-chose. Donc voilà. Côté des Rangers, honnêtement, bonne série de leur part. Tu l'as dit, ils ont mené à peine trois minutes les Capitals dans cette série, puis c'est parce que les Rangers, à chaque fois, étaient capables de faire mal aux Capitals. Dès que les Capitals marquaient, soit égalaient ou soit pris les devants une fois, on revenait direct avec un but du côté des Rangers pour faire très mal. On ne laissait pas là, avoir de l'espoir de du côté des Capitals encore dans ce match-là. Hendrik Lapierre a fait 2-2 direct. Pas longtemps après, c'est Panarin qui a fait 3-2. Donc, on coupait l'herbe sous le pied des Caps. Mm-hmm. Puis c'est cette capacité-là à marquer des buts à profusion puis en un clin d'œil quasiment du côté des Rangers qui fait très peur. Par contre, j'ai pas l'impression qu'ils ont joué leur meilleur hockey nécessairement dans cette série-là. Je pense qu'ils peuvent aller chercher un autre niveau encore. On n'a pas vu des scores de grosses démolitions tant que ça contre les Caps. Je pense qu'on aurait pu le voir si les Rangers avaient joué à leur top niveau. Donc, ça va être intéressant de voir. Rangers et Hurricanes, si c'est les Hurricanes qui battent les Islanders, ces deux-là, ça pourrait être un choc des titans si ces deux-là qui, je trouve, ne jouent pas à leur niveau maximum présentement. Ça va être extrêmement intéressant à suivre. Et si tu n'as rien à ajouter sur cette série, on va passer à la dernière.
Tu as fait le tour.
Oui, parfait. Passons à la dernière, donc, de la dernière soirée. Un match surprenant pour ce qui est du score. 1-0 en faveur des Oilers. On avait vu une série complètement offensive. On se disait jamais, les Oilers vont marquer qu'un seul but dans cette série. Eh bien, c'est arrivé. Et non seulement il marque juste un but, mais il remporte la victoire. Donc, un match 2-0 et c'est 13 tirs, 13 petits tirs pour les Oilers. C'est de l'opportunisme et c'est un très bon match de Stuart Skinner également qui a fait un blanchissage de 33 arrêts. Donc, Skinner aussi, on avait des doutes, un peu comme Gorgiev. Mais là, dans les deux derniers matchs, je dirais, là, se débrouille bien. Et voilà pour les Oilers. Le sommaire va être très court. C'est Evan Bouchard qui a marqué un but pour les Oilers. Et c'était, je pense que c'était sur le seul avantage numérique de la partie pour les Oilers que Bouchard a marqué. Les Oilers sont 8-15 en avantage numérique maintenant dans ces séries. Donc Bouchard qui marque avec, bien sûr, des aides de Draisaitl et McDavid qui continuent à produire, même s'il y a un seul but dans ce match-là. Très court match, mais qu'en as-tu pensé, Tom?
Mais écoute, c'est pas compliqué. Je trouvais que les deux équipes ont inversé le style de jeu le temps d'un match. Pendant toute la rencontre, tu voyais les Kings qui bourdonnaient le filet de Skinner qui a super bien expression gaulé sa tête. Vraiment un excellent match de sa part. Et du côté des Oilers, écoute, je pense que c'est seulement 3 tirs en troisième période. Non, on a vraiment joué la trappe du côté des Oilers et ça a très bien marché. Donc écoute, chapeau, un vrai match de série. Puis on doutait un peu la capacité des Oilers d'aller chercher ce genre de match-là, ces matchs défensifs-là, parce que oui, c'est beau marquer 5, 6, 7 buts en série, mais par match, mais en série, tu as besoin de rapporter ces matchs à caractère défensif-là des 1-0. Et je pense que ça a été un très bon test pour les Oilers qui ont réussi haut la main. Donc, ça augure bien pour le reste des séries. Edmonton.
Ouais, puis tu l'as dit, les deux équipes qui ont un peu switché, échangé de style de jeu. Et vraiment, je pensais pas que les Oilers étaient capables de jouer de cette manière-là. C'est vraiment des statistiques impressionnantes. Les Kings ont dominé là, presque à tous les chapitres. 44 mises en échec contre 27 aussi. Donc, niveau robustesse, c'était les Kings qui avaient le momentum également. Donc, puis la seule chose côté des Kings, c'est que oui, on était plus dominants, on a plus bourdonné en zone adverse, comme tu l'as dit, mais ça restait quand même du hockey de périphérie quand même. Là. Peu de chances, vraiment dangereuses. Donc ça explique encore le bon travail défensif des Oilers, comme tu en parlais. Mais ouais, les Kings n'ont pas été capables d'être assez incisifs, mettons, dans le centre de la glace, comme les Oilers peuvent le faire si facilement là, avec des McDavid. Donc c'est là la différence là, et pourquoi les Kings n'ont pas été capables de marquer les buts. Il y a Stuart Skinner, mais aussi ça qu'on joue beaucoup en périphérie. Donc voilà, c'est pour ça. Puis honnêtement, c'est ça. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire vraiment sur ce match-là. C'est un match à caractère très défensif, des espaces fermés, comme tu l'as dit, du hockey de série. On parlait Oilers Canucks tantôt, advenant là, que les séries se terminent ainsi que Canucks et Oilers remportent leurs deux côtés. Qui tu vois là, sortir gagnant de ce duel canadien?
Ah, ben écoute, comme que je t'ai dit, ça risque d'être la série la plus difficile à prédire du deuxième tour. Et honnêtement, écoute, tu me demandes ça là, je dirais les Oilers parce que les Canucks vont être sans Demko, peut-être sans Desmith lors du deuxième tour. Donc, je pense.
Est-ce qu'on sait c'est quoi la longueur de la blessure de. Le temps pour la blessure de Demko, ça qu'on va
Demko, j'avais lu que il serait un doute même si les Canucks se rendaient en finale de conférence. Donc, okay. C'est une blessure qui est quand même à long terme du côté de Demko. Puis je pense que c'est un peu ça qui va donner l'avantage aux Oilers, surtout quand tu joues contre une équipe, contre une force offensive comme Edmonton, ça risque d'être un peu trop pour Desmith ou Silas.
Ouais, ben écoute, moi j'y vais avec les Oilers, puis j'hésite moins que toi là, honnêtement, parce que tu l'as dit, les blessures du côté des gardiens et le fait que offensivement, les Canucks ne m'ont pas tant surpris là, pas tellement impressionné, pardon, dans leur série contre les Prédateurs. Donc pour moi, j'y vais sans vraiment hésiter avec les Oilers, quoique les Canucks peuvent toujours me surprendre. Puis là-dessus, ben Tom, c'est le temps de te remercier parce qu'on a fait le tour de cet épisode. Donc, merci d'avoir été avec nous. On espère te revoir bientôt là, pour d'autres épisodes de Première Loge. OK, j'attendais. J'attendais.